Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Produit par Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. On s'est tellement habitué, depuis notre plus tendre enfance, à s'entendre dire que la France fait jeu égal avec les plus grandes nations dans le ballet de la diplomatie et des tractations internationales, on a tellement intégré que notre pays était a priori au premier rang, qu'à chaque fois qu'il trébuche sur la grande scène, tout le monde s'étonne. Comme par exemple, lors de nos récents démêlés avec les États-Unis et l'Australie. Pour la faire courte, les seconds ont préféré s'acoquiner avec les premiers pour faire construire leurs sous-marins et donc dénoncer le juteux contrat qui les liait à nous. Pataquès mondial, la France tempête rappelle ses ambassadeurs, ce qui n'arrive quand même pas tous les 4 matins, et finit par se rabibocher avec l'Amérique via un coup de fil d'allure un poil condescendante entre Biden et Macron. Au passage, on aura eu le droit à une séquence médiatique de plus en plus habituelle. On aura en vrac causé de l'OTAN et de sa raison d'être, de la défense européenne, du poids des accords internationaux, de la nécessité de rester indépendant face à l'ogre états-unien, etc., etc. Et si finalement derrière tout ça, la question ça ne serait pas plutôt « Est-ce que la France est encore une grande puissance ?» C'est ce qu'on a décidé de se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Cette interrogation d'allure un poil provocatrice, je le confesse, je l'ai soumise à deux universitaires, Jenny Raflick, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Nantes, et Delphine Deschaux-Dutard, qui elle est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Grenoble-Alpes. J'ai d'ailleurs commencé par leur demander à toutes les deux s'il fallait voir, dans les réactions très outrées, très très agacées, très colères, mais finalement pas très efficaces de la France, un signe d'une perte d'influence à l'international. C'est Jenny Raflick qui répond la première.
Ce qui, à mon avis, est le signe d'une perte d'influence, ce sont ces agacements à répétition. Parce que si on avait l'influence qu'on a pu avoir initialement à l'échelle internationale et dans les relations transatlantiques, on n'aurait pas besoin d'être dans une situation de crise tous les 6 mois. Or, là, ce qu'on est en train de vivre, on l'a vécu quand la Belgique a choisi d'acheter du matériel américain plutôt que français ou européen. On l'a vécu quand la Pologne a choisi d'acheter des hélicoptères américains plutôt que français. On l'a vécu quand il y a eu l'incident franco-turc en Méditerranée. Et finalement, c'est plus surtout la répétition de ces incidents qui montre qu'effectivement, la France parle fort, mais que ça change rien.
C'est une question que je me suis aussi beaucoup posée et qui, moi, m'a fait penser à une autre gesticulation qui, à l'époque, m'avait pas mal interrogée, qui était quand le président Macron avait, par 2 fois quand même, qualifié l'OTAN d'obsolète, notamment au moment du 70e anniversaire, en se mettant, pas vraiment à dos, mais en disant qu'en froissant un peu un certain nombre de ses collègues et surtout en poussant la chancelière allemande à préciser que non, l'OTAN, c'est toujours très utile. Et c'est vrai que moi, je fais un peu le parallèle entre les deux, puisque dans les deux cas, moi, je l'analyse de la façon suivante. Je crois qu'il y a beaucoup de symbolisme, en fait, dans les relations internationales, dans la diplomatie. En tout cas, le symbole a un véritable rôle qu'on peut pas négliger. Et là, c'est particulièrement frappant, puisque cet agacement, ces gesticulations, je crois que c'est aussi une façon, finalement, de pousser nos alliés européens à se prononcer. Ce qu'ils n'avaient pas fait, en fait, pendant 5 jours. Et je crois vraiment que là, pour le coup, le symbole de mettre en scène en quelque sorte sa colère, puisque rappeler son ambassadeur, c'est quand même un signe très fort de désaccord. C'est vraiment quelque chose qui sert à dire aux autres, là, il faut qu'on réagisse.
Alors l'affaire des sous-marins et la trahison de l'Australie et des États-Unis provoquent des remous dans la classe politique française, d'ailleurs en Australie aussi. Les uns reprochant à Emmanuel Macron son silence, d'autres le déclin de la France en matière industrielle et géopolitique. L'extrême droite et les communistes demandent la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Faut-il ajouter à la trahison la bronca de l'opposition, comme si dans le fond la faute en revenait au président ?
Peut-être pour celles et ceux qui sont les plus jeunes, qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément toutes les clés de cette discussion, est-ce qu'on peut brièvement expliquer c'est quoi l'OTAN ?
Alors en fait, l'OTAN, bah, c'est une alliance de sécurité qui rassemble les pays, la plupart des pays européens, le Canada, les États-Unis et la Turquie. Et c'est une alliance qui a été créée au moment de la guerre froide, en fait, pour pouvoir faire face aux troupes du pacte de Varsovie. Et l'objectif clé de l'OTAN, dans sa fondation, bah, c'est de protéger les alliés des États-Unis en Europe contre le risque d'invasion soviétique.
Vu d'aujourd'hui, c'est assez difficile de se souvenir de ça et de bien le percevoir. Mais en 1949, quand le traité de Washington qui crée l'Alliance Atlantique est signé, on se demande pas si il va y avoir une troisième guerre mondiale, on se demande quand il y aura une troisième guerre mondiale. On prépare la guerre. À ce moment-là, on est vraiment dans cet état d'esprit, on prépare la guerre.
Alors, les missions de l'OTAN aujourd'hui, bah, elles sont résumées en fait dans l'article 5 du traité de Washington, qui sont traités fondateurs qui datent de 1949. Et concrètement, la première des missions de l'Alliance, c'est la sécurité collective de ses États membres. Ce qui veut dire que, pour être encore plus concrète, si l'un des États membres est attaqué, les autres États membres se doivent de réagir pour aider cet État contre l'agresseur. Et on a activé justement cet article 5 au moment du 11 septembre, quand les États-Unis ont fait appel à leurs alliés pour réagir.
Aujourd'hui, ce n'est pas une armée spécifique, c'est l'accumulation de toutes les armées nationales, mais qui sont capables d'agir et de combattre ensemble. Alors, évidemment, le mur est tombé, les soviétiques n'existent plus. Vu de France, on a l'impression que l'OTAN n'a plus véritablement de raison d'être parce que la menace russe n'est plus là. Mais enfin, c'est pas exactement le même sentiment vu de Pologne ou vu des pays baltes où la menace russe, on la ressent. Donc finalement, cette fonction initiale de se défendre contre les Russes, ça reste valable. C'est juste que le centre de gravité de la menace s'est déplacé.
C'est quoi les principaux griefs qui ont émergé ? Alors j'imagine qu'ils ont évolué avec le temps, mais historiquement, c'est quoi les principaux reproches que fait la France à cette organisation ?
C'est pas tant des reproches qu'un problème justement de reconnaissance internationale. La France a longtemps été une des très grandes puissances mondiales. Voilà, 19e jusqu'au 19e siècle, la France est un des très grands pays à l'échelle de la planète. Après la Seconde Guerre mondiale, au sein de l'Alliance, la France ne peut plus être qu'une grande puissance européenne dans un bloc qui est lui-même dominé par une autre grande puissance que sont les États-Unis. En réalité, on a des crises au sein de l'OTAN depuis la création de l'OTAN. Voilà. Alors, le pacte atlantique a été signé en 1949. En 1950, il y avait déjà une grosse crise au sein de l'Alliance autour de la défense européenne. En 1954, une énorme crise. En 1956, une crise autour de Suez. En 1963, une crise entre Kennedy et De Gaulle. Puis toute l'affaire du retrait français. Puis les euromissiles. Et l'histoire de la France dans l'OTAN, c'est une histoire de crise.
Effectivement, la France a toujours eu une difficulté à se positionner dans l'OTAN, et ça, c'est un héritage gaulliste, en fait. C'est notre sortie de l'OTAN en 66 qui fait que pendant près de 30 ans, en fait, pendant 40 ans, pardon, parce qu'on est revenu en 2009, on est resté en fait un peu en marge. Et avec un paradoxe qu'il faut quand même rappeler, qui est que tout en étant en marge des cercles de décision du comité militaire, on était malgré tout un des contributeurs les plus importants aux opérations de l'OTAN, en Bosnie par exemple, au sein de la FIAS en Afghanistan, alors même qu'on ne revient dans les arcanes de décision de l'OTAN qu'en 2009. Et je crois qu'en fait, toute la difficulté de la France à se positionner au sein de l'OTAN, elle vient aussi de là, de cet héritage gaulliste, de cette volonté de créer une troisième voie entre les deux blocs pendant la guerre froide, qui est en fait une volonté qui est toujours à l'œuvre, qui est un de nos grands fondamentaux de politique étrangère.
Très vite, au sein de l'OTAN comme au sein de l'Union européenne, c'est plus la France qui est le grand européen, il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, et donc la France fait office de moyen parmi les moyens, et je crois que c'est ça, c'est surtout ce sentiment de déclassement qui pèse beaucoup sur le discours politique, sur l'ego peut-être, mais la façon dont les Français ressentent les relations internationales et se voient à l'échelle de la planète. Je pense que ça en dit plus sur le malaise français que sur le malaise véritablement de l'OTAN, qui finalement a très bien survécu au départ français du commandement intégré, s'en était accommodé, a continué à se renforcer et survit finalement très bien à chaque crise française.
Est-ce que ça revient à dire que malgré un sentiment persistant et peut-être une idée reçue persistante, la France n'est plus vraiment une grande puissance ?
Tout dépend de ce qu'on ambitionne être et de ce qu'on estime être une grande puissance. Je pense que si on veut absolument être une grande puissance au sens militaire du terme, les moyens français vont être un peu limités. Au sens économique, on ne va pas rivaliser. Mais il y a d'autres moyens d'être une grande puissance. Le français reste, la francophonie reste évidemment un vecteur de puissance. La culture et puis un certain nombre de valeurs. Ça dépend sans doute de la façon dont on le regarde et des ambitions qu'on va porter à travers le monde.
Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question-là. Et moi, j'aime beaucoup la formule qu'avait Valéry Giscard d'Estaing, qui était de dire que la France était devenue une grande puissance moyenne. Si on regarde, par exemple, le critère militaire, on se rend compte quand même que la France reste dans le club des grandes puissances parce qu'elle a un budget militaire qui est élevé, parce qu'elle est capable de projeter des troupes à l'étranger sur plusieurs théâtres en même temps. Donc là-dessus, de ce point de vue-là, c'est aussi une puissance nucléaire, une puissance qui a un siège permanent au Conseil de sécurité. Donc effectivement, elle fait partie du club des grands. Maintenant, est-ce que ça suffit, ça, aujourd'hui, pour être une grande puissance ? On voit bien que non, avec l'épisode du contrat cassé par l'Australie notamment, mais on le voit aussi à d'autres éléments qui nous montrent bien qu'au fond, on a perdu une certaine influence, d'abord par la langue, avec une prédominance de l'anglais, et puis aussi par la concurrence, notamment la concurrence en termes de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'attraction culturelle, qui est pratiquée par beaucoup d'États maintenant, notamment des puissances émergentes, la Chine, la Russie par exemple, qui ont très bien compris en quoi c'était fondamental aujourd'hui pour la puissance. Donc de ce point de vue-là, je dirais que oui, la France a perdu un peu de son influence.
C'est une question de priorité et de rang dans les nations. La France voudrait rivaliser directement avec les États-Unis. C'est peut-être ambitieux. Alors évidemment, l'armement français est quand même un armement de niveau mondial, indéniablement. Mais en achetant américain, on l'a bien vu notamment du côté des Belges ou des Polonais, on achète une alliance aussi. Et c'est encore plus net avec l'Australie, qui achète là plus que des sous-marins. C'est toute une nouvelle alliance et toute une nouvelle géostratégie qui est en train de se mettre en place.
Je crois que rationnellement, sans entrer dans, on va dire, dans les projets politiques, mais rationnellement, je crois qu'on ne peut plus imaginer être puissant dans le monde, puissant au sens de capable d'agir, d'influencer les relations internationales tout seul.
Il y a quelque chose de paradoxal, du coup, de se dire si on ne peut plus être puissant tout seul. On a besoin de collectifs pour être puissant. Et en même temps, on peut se demander si ces grandes instances collectives inventées dans l'immédiate après-guerre sont encore taillées pour l'époque que l'on est en train de traverser.
En effet, alors si vous faites référence à l'ONU notamment et au Conseil de sécurité, on est tout à fait dans cette inadaptation. C'est-à-dire que ça fait maintenant plusieurs décennies qu'il est question régulièrement de réformer le Conseil de sécurité, d'augmenter le nombre de sièges permanents, parce qu'on a quand même certains continents du monde qui ne sont pas représentés de façon permanente à l'ONU. C'est le cas de l'Afrique et c'est le cas de l'Amérique latine, où on a quand même, pour le coup, des puissances émergentes, le Brésil ou l'Afrique du Sud, qui ne sont pas représentées. Donc est-ce que c'est légitime finalement, et est-ce que ça reflète les équilibres du monde de ne laisser le droit de veto qu'aux 5 traditionnels, la France, la Chine, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne? Effectivement, je ne suis pas sûre. Alors après, il me semble aussi que la deuxième étape, et c'est un peu ce qu'a proposé l'Allemagne par deux fois, qui a été poliment refusée par la France, l'idée d'un siège européen au Conseil de sécurité. Effectivement, si on veut donner davantage de voix à l'Union européenne, c'est mieux encore d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Et là, pour le coup, la France n'est pas forcément d'accord, parce qu'elle estime qu'il y aurait probablement une concurrence. Mais c'est peut-être, ça serait sans doute même une voie de renforcement de la voix européenne. Et je pense aussi que ça serait une voie qui permettrait un rééquilibrage, finalement, des relations de puissance qui existent dans le monde, beaucoup plus que le système actuel, qui, on le voit bien, est quand même régulièrement grippé par le veto des uns ou des autres.
D'un côté, on a l'impression effectivement qu'elles sont plus très adaptées, ces grandes organisations. D'un autre, peut-être parce que les diplomates ont été formés comme ça et que nos dirigeants politiques aussi ont été formés comme ça, le réflexe qu'ils ont quand ils se rendent compte qu'une de ces organisations ne fonctionne plus, c'est d'en créer une autre. Et finalement, du coup, on reste sur le même modèle. Alors, est-ce qu'il faudrait... Certains diplomates et certains intellectuels ont appelé à repenser complètement les relations internationales, à reconstruire totalement autre chose. Mais là, je crois que c'est une mutation intellectuelle, une mutation des formations qu'il faudrait avoir et qu'il faudrait faire avant de réinventer autre chose et un autre mode de relations internationales. Ce qui fait que peut-être sur le long terme, ces organisations disparaîtront-elles, mais à mon avis, pas demain, parce que c'est toujours quand même vers ce type de structure, finalement, qu'on se retourne de façon assez classique. Et c'est vrai que la diplomatie, les relations internationales se sont pas renouvelées à cet égard-là, indéniablement.
Comment pourrait-on réformer l'OTAN? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait l'élargir plus, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait la circonscrire peut-être à nouveau davantage aux puissances européennes et puis aux alliés traditionnels qui sont le Canada et les États-Unis? Pour le coup, la réforme de l'OTAN, ce n'est pas forcément un sujet, en réalité, au sein des sphères de discussion. Quant à l'Union européenne, alors là, effectivement, il y aurait probablement des choses à revoir, notamment en matière de politique étrangère, puisqu'une des choses qui peut bloquer finalement la capacité de l'Union européenne à se faire entendre, c'est la règle de l'unanimité sur un certain nombre de grands dossiers internationaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est question de concevoir une mission militaire, par exemple, ou une mission civilo-militaire, où il est question de faire une déclaration au nom de l'Union européenne, il faut quand même qu'il y ait un accord de l'ensemble des États. Et ça, parfois, ça peut être un peu compliqué. Et en même temps, ça peut paraître logique, hein, sur des sujets qui peuvent avoir des conséquences stratégiques importantes pour l'un ou l'autre des États membres, qu'il y ait une véritable démocratie, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer et exprimer ses réserves.
À l'Élysée, cet après-midi, devant plus de 1000 journalistes...
Charles de Gaulle, le 9 septembre 1965.
Le président de la République a tenu la 12e et dernière conférence de presse du septennat.
Ce dont il s'agit pour nous, c'est de nous tenir en dehors de toute inféodation. Nous resterons les alliés de nos alliés. Mais au plus tard, en 1969... cessera, pour ce qui nous concerne, la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères.
Le 21 février 1966.
Certes, il est bon que ces institutions existent, mais si nous avions écouté leurs apôtres excessifs, ces organismes n'auraient été pour nous qu'une couverture pour notre soumission à l'hégémonie américaine. Ainsi, la France disparaîtrait emportée par les chimères. Au contraire, pour ma part, qui ne le sait, je n'ai jamais cessé d'inciter notre pays à assumer son indépendance.
Est-ce que tout ça voudrait peut-être dire, alors ça ferait modifier un peu ma question initiale sur la France est-elle une grande puissance, c'est est-ce que l'Europe est toujours une grande puissance dans le dialogue des grands blocs si justement le partenaire américain s'en désintéresse un peu au profit peut-être de partenaires du côté de l'Asie plutôt, est-ce que l'Europe n'est pas en train de perdre de son influence?
Alors je crois que là aussi c'est une question qui est complexe et qui dépend un peu de finalement dans quel aspect on regarde la puissance européenne et l'influence européenne. Je crois que sur le plan stratégique, malheureusement, je partage en fait votre constat. On voit bien que sur les dernières grandes crises internationales, la voix de l'Union européenne est inaudible. Et dans le pire des cas, il y a une sorte d'alignement sur la position américaine, mais on ne voit pas forcément de spécificité de la position européenne. Malgré, bon, il y a eu quand même quelques tentatives avec les accords de Minsk sur l'Ukraine, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas résolu le conflit en Ukraine, qui continue. Sur le Yémen, silence européen. Sur la Syrie, silence européen. Donc, effectivement, sur le plan stratégique, ça pose une vraie question de comment, en fait, faire en sorte que l'Union européenne puisse être plus audible. Et je crois que cette question se pose encore plus avec le Brexit, qui montre que, finalement, le calcul fait par les Britanniques, c'est quand même de ménager cette fameuse relation spéciale avec Washington et de s'aligner plutôt sur les positions de Washington, sauf quand il y a vraiment des intérêts très concrets en jeu, du type les accords de défense bilatéraux avec la France, que, bien sûr, là, on maintient.
Pour construire autre chose, aujourd'hui, il est quand même totalement illusoire de vouloir assurer sa défense seule. La France ne peut pas faire face seule à toutes les menaces mondiales et à tous les enjeux mondiaux. Et on voit bien que les alliés européens, qui seraient l'alternative, eux, regardent du côté de l'OTAN, systématiquement. Et alors là, on a vu dans cette crise, c'est très significatif, deux, trois déclarations politiques allemandes ou alliées disant « oui, on comprend les Français » et qu'ont fait les Allemands immédiatement. Ils se sont rapprochés de l'Australie pour aller dans le même sens que les Britanniques et les Américains. Autrement dit, des discours de soutien aux Français, mais les autres puissances européennes n'ont aucunement l'intention de construire leur défense hors de l'OTAN. Et la France est coincée. Il n'y a pas d'autre choix qui s'offre à elle que de suivre les Européens, sans quoi elle serait totalement isolée et là, clairement affaiblie.
C'est tout le problème, en fait, c'est ce qu'on appelle, en termes un peu compliqués, la non-fongibilité de la puissance. C'est-à-dire qu'on peut très bien, aujourd'hui, après la guerre froide, être puissant dans un domaine et pas dans un autre. Et c'est ce qui fait qu'on a une sorte de balance ou d'équilibre des pouvoirs dans le monde et qu'il n'y a pas de grand hégémon qui domine absolument tous les domaines. Alors même si bon, les États-Unis sont les mieux placés, on va dire, selon cette définition, mais malgré tout, on voit que cette puissance-là, elle a aussi des faiblesses.
Finalement, peut-être qu'il serait plus judicieux d'arrêter, médiatiquement parlant, d'employer cette rhétorique de la grande puissance, d'arrêter de calquer sur une période qui ne s'y prête plus, un système de pensée du monde qui est daté de la guerre froide, un conflit qui est quand même à peu près terminé depuis plus de 30 ans. Bon, là aussi, le changement risque d'être assez long. Merci à Jenny Raflick et Delphine Deschaux-Dutard pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Elisa Grenet. Tous nos prochains épisodes et nos très 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 nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.